Bien, bonjour. L'objet de mon intervention aujourd'hui va tourner autour de la théorie des situations didactiques élaborée par Guy Brousseau. Et le fond de mon exposé n'est pas de vous décrire le modèle théorique, mais aujourd'hui, avec vous, c'est une tentative de contribution de la théorie des situations didactiques à l'objet qui nous intéresse aujourd'hui, enfin depuis quelques jours, sur la démarche d'investigation en mathématiques. Un premier point que je voudrais mettre en évidence, ça appartient à l'épistémologie de la théorie des situations, de mon point de vue, pourquoi ici et pour la démarche d'investigation, l'approche ou l'apport de la théorie des situations est intéressante, c'est que, au fondement de la constitution théorique de Guy Brousseau sur la théorie des situations didactiques en mathématiques, il y a la mise en œuvre de situations d'enseignement qu'il appelle pas ingénierie, mais on pourrait le décrire comme ça, qui ont été au cœur du développement théorique. Donc je vais tenter d'utiliser un petit peu ce fil conducteur, c'est-à-dire des situations construites comme expérimentalement provoquant une élaboration théorique, pour l'insérer dans la dynamique d'investigation et de montrer un certain nombre de phénomènes, de notions, de phénomènes de transposition ou de notions qui me permettent, enfin, qui, je suppose, vont aider à la réflexion collective sur un processus d'enseignement-apprentissage bâti sur une démarche d'investigation comme ça commence un petit peu à se dessiner avec les grands principes qu'a apporté Yves. Si j'ai mis dynamique dans mon titre, c'est que à plusieurs reprises, on a évoqué, on a observé, certes, elle est là, notre collègue de géométrie dynamique, oui, montre que ce ne sont pas des situations qui se jouent sur une séance, mais sur des temps relativement longs. Et je vais commencer à ébaucher cette notion de dynamique de l'enquête à travers le cas de Gaël. Alors le cas de Gaël, c'est comment dire le texte, je dirais, fondateur, un des textes fondateurs de la théorie des situations didactiques de Guy Brousseau. Mais avant de commencer sur vous l'avez tous lu, bien sûr. Mais en tout cas, j'ai prévu de ponctuer mon exposé par des extraits et des étapes, mais en faisant une lecture personnelle. Ce que je vais dire là, ce ne sont pas les mots de Brousseau, hein, ce sont des commentaires, une lecture particulière, une proposition sur la théorie des situations, et je vais prendre un certain nombre de propositions de départ. En montrant, enfin, en posant un certain nombre de questions. Que peuvent faire les professeurs pour enseigner les savoirs de telle manière qu'ils aient du sens pour les élèves? C'est à cette question fondamentale que tente de répondre la théorie des situations de Guy Brousseau. Et en fait, la connaissance mathématique et les objets de savoir mathématique que les élèves produisent dans une classe de mathématiques y sont considérés comme l'effet d'une situation didactique. Il faut entendre cette formulation comme l'effet de la mise en œuvre dans une classe auprès d'élèves, élèves étudiants, hein, pas forcément simplement élèves dans l'enseignement obligatoire, d'une situation didactique. Donc, à l'origine, se situe donc le fait que dans une situation proposée par l'enseignant, les élèves vont rencontrer quelque chose qui fait problème et ils vont trouver dans des actions, dans des tentatives d'actions nouvelles, matière à apprendre. En ce sens, et ça j'y reviendrai un petit peu plus loin, une situation didactique n'est pas une situation dans laquelle, dite situation problème, elle va être plutôt relative à une classe de problèmes. Et donc, il va y avoir enquête, investigation dans l'ensemble des problèmes qui permettent d'être résolus à l'aide de la connaissance que les élèves tentent d'affronter successivement dans des enchaînements organisés. Deuxième proposition initiale, j'ai dit que peuvent faire les professeurs, mais en disant ça, que peuvent faire les professeurs, on s'attend à ce que les élèves tentent un certain nombre de choses. Qu'est-ce que enseigner et qu'est-ce que apprendre? Alors, très rapidement, il ne s'agit pas de définition exhaustive, formelle, qui prétend à, mais qui pose la problématique dans la théorie des situations. Enseigner, c'est montrer quel est le savoir à apprendre. On a plaisanté lors de notre première journée sur le fait, j'ai appris ça, le manteau papillon. En fait, à partir du moment où le professeur va poser le manteau par terre et qu'il va montrer qu'il y a quelque chose à apprendre, le savoir, enfin, mettre le manteau en papillon devient un savoir qui est un candidat à l'apprentissage. Étudier, ça va être de tenter l'apprentissage. J'ai des enfants, donc ils ont été jeunes, et tout le monde a remarqué que dans cette tentative de papillon, si on se met pas dans le sens contraire, ben on a des cols derrière, aux fesses, des cols aux fesses. Et bref, il s'agit de tenter cet apprentissage. Donc, un professeur montre aux élèves ce qu'ils doivent étudier et comment ils doivent s'y prendre pour mener l'étude par le moyen d'une situation. Mais alors, pour faire des tentatives, pour que ça soit vraiment des tentatives, les élèves, et ça c'est un des apports majeurs d'Alain Mercier en didactique des mathématiques, les élèves doivent être rendus ignorants de ce qu'ils ont à apprendre. Et voici, par rapport à ces énoncés initiaux, comment, dans l'étude du cas de Gaël, un professeur, et il s'agit d'un professeur ici, peut s'y prendre. Alors, le cas de Gaël, j'ai parlé d'une chronologie dans la théorie des situations. Le texte que vous avez à disposition n'est pas le texte initial. Régulièrement, dès que Guy Brousseau a des retours sur l'usage de ce texte, il en fait des versions successives. Et allez sur son site et vous verrez que vous avez la version de temps, de temps, de temps. Si vous allez sur HAL, Hyper Archive Online du CNRS, où Brousseau a stocké un certain nombre de documents pour sa recherche, vous verrez que vous n'avez pas la même version que la dernière qui est sur son site actuellement. Donc c'est un texte qui est un texte en évolution permanente et qui permet... et qui est l'occasion pour Guy Brousseau de revenir sur certains points à l'aune des usages ou des réactions que provoque ce texte. C'est un texte dans sa version, là, je crois, qui est de 1999 ou 2004. Non, de 1999. Et il a été repris à trois mains par Guy Brousseau, Jacques Pérez et Virginia Woolfield pour la traduction en anglais notamment. Donc, je vais prendre les différentes situations telles qu'elles sont présentées dans le texte pour illustrer ce que j'ai énoncé. Enseigner, c'est montrer quel est le savoir. Étudier, c'est tenter cet apprentissage. Au départ de cette situation, alors la lecture est un petit peu des fois déroutante parce que Brousseau commente les actions conjointes d'un intervenant auprès d'un élève particulier, et cet intervenant, c'est Guy Brousseau, hein, c'est personne d'autre. Donc c'est Guy Brousseau s'appelant l'intervenant pour revenir sur ses propres actions dans l'interaction, dans la situation, dans les situations avec, avec Gaël. Alors, Gaël, comme c'est indiqué dans le texte, est dit en échec. Il n'arrive pas à apprendre malgré les tentatives d'enseignement de son professeur. Et donc, il est pris à part. Donc, il s'agit bien d'une situation très particulière, pas en classe, avec un élève particulier, et il va proposer un certain nombre de situations. Alors, vous avez bien compris en lisant le texte, et c'est énoncé de toute façon très explicitement, que l'apprentissage visé est à la fois la technique de la soustraction et la compréhension des classes de situations dans lesquelles on va, qui relèvent de la soustraction, où l'élève est censé reconnaître qu'il s'agit d'une soustraction, d'une situation de soustraction, et il va construire la connaissance appropriée pour cela. Donc, première situation de départ, les voitures rouges et les épreuves opératoires. Alors, pourquoi j'ai repris les voitures rouges et les épreuves opératoires au cœur de cette situation proposée dans le cas de Gaël? Il y a une série d'échecs. Une série d'échecs qui montrent que Gaël n'a pas une représentation correcte de la situation. Alors, il fait des additions, il échoue, et l'intervenant, alors bon, je dirais l'intervenant parce que c'est un petit peu difficile, je vais reprendre un petit peu la différenciation que fait Brousseau dans son texte. L'intervenant lui demande de dessiner des voitures qui sont dans le parking. Vous vous souvenez de cette première situation, et certaines réponses au retour de Gaël pourraient faire penser ou peuvent faire penser qu'il ne maîtrise pas l'inclusion. Ainsi, qu'il ait dessiné 57 voitures, il répond à la question de l'intervenant, vous vous souvenez, est-ce que toutes les voitures dont on te parle sont de ce parking? Non, il y a aussi des voitures rouges. Alors, les difficultés, imaginez ces difficultés, relèvent de, par exemple, il n'y a qu'un ensemble de voitures avec deux propriétés, être dans le parking et être rouge. Pour lui, la deuxième propriété nécessite un deuxième ensemble. Et s'il admet que le deuxième ensemble possède aussi la première propriété, il ne conçoit pas encore qu'il soit une partie de l'ensemble de départ. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'a pas analysé l'énoncé? Ou est-ce qu'il ne peut pas utiliser l'opération d'inclusion? L'intervenant demande à Gaël de peindre en rouge les 24 voitures sur son schéma. Et lorsque Gaël cherche la réponse, il obtient d'abord 31, puis 33. Et lorsque l'intervenant lui demande comment faire pour savoir quelle est la bonne réponse, Gaël dit qu'il ne sait pas. Il ne pense pas ou il ne convoque pas une opération pour décider. Et en continuant à travailler avec Gaël sur deux situations voisines, l'une de l'addition et l'autre de la soustraction, l'intervenant va constater que Gaël traite de nouveau la situation de soustraction en faisant une addition. Donc, par rapport au problème de l'inclusion et à la séparation des deux collections, la dissociation des deux collections. Alors, si on regarde bien la première, la réaction logique, on pourrait dire à ces réponses de Gaël, eh bien, l'intervenant va faire passer un certain nombre d'épreuves, deux épreuves de type piagétien. La première est la quantification de l'inclusion. Bon, c'est décrit dans le texte. Et la seconde est le test de commutativité. Alors, le test de commutativité consiste à reconnaître, avec les deux réglettes A et B et mises bout à bout, qu'elles ont la même mesure qu'une réglette C superposée, puis reconnaître que si l'on permute, eh bien, on va obtenir une réglette qui correspond à la réglette initiale. Donc ça coïncidera. Et Gaël participe parfaitement, enfin réussit parfaitement aux deux épreuves. Et donc, un aspect décisif dans l'histoire de l'enchaînement des situations et des conduites, on pourrait dire, des conduites ou des réponses ou des tentatives de Gaël aux questions de l'intervenant, c'est que lorsque l'intervenant met en doute son jugement, même s'il a, soit il est correct ou partiellement correct, Gaël, comme vous pouvez le constater, revient très facilement sur ses affirmations. Alors, voilà ce que dit Brousseau, je l'extrais, sur le problème que rencontre Gaël dans cette situation. Il semblerait que sans doute sa soudaine absence de conviction à partir d'une simple contre-proposition renvoie à son attitude générale vis-à-vis d'autrui lorsque sa propre connaissance est mise en jeu. Le sentiment de nécessité qui, pour Piaget, est le révélateur du fonctionnement d'une structure opératoire, disparaît ici, sans qu'on puisse incriminer une fragilité des constructions logiques du sujet, mais renvoie directement, pensons-nous, à la manière d'être avec autrui, et je rajouterai, dans la situation. Alors Brousseau avance ensuite l'analyse suivante. Gaël n'a avec la connaissance, alors ici la connaissance, celle qui est question en classe, qu'un rapport superficiel. Et l'évitement du problème et la mise à distance, elle débouche sur des actions ou des réactions stéréotypées, purement didactiques, c'est-à-dire centrées sur le rapport avec le maître, sans mobilisation des schèmes assimilateurs qu'il a pourtant à sa disposition, comme le montrent les épreuves subies avec l'intervenant, les épreuves piagétiennes. Gaël s'accommode de relations institutionnalisées qui font appel de sa part à des rites qui ne l'engagent pas. Nous pouvons alors penser que toute l'attitude de Gaël au cours de cette première séance est la conséquence d'un accord entre la situation didactique habituelle de la classe telle qu'il la perçoit et son rapport défensif à la connaissance, comme cela a été évoqué un petit peu plus haut. Cette dimension ritualisée, ces habitudes d'action dans la classe, je les pose dans la réflexion commune sur ces habitudes ritualisées de rapport à la connaissance et de rapport aux professeurs dans les situations d'enseignement et celles que l'on voudrait installer dans la démarche d'investigation. Vient ensuite il y a quatre séquences. La séquence 2. Donc, Brousseau et son élève, on peut le dire, va proposer un ensemble de situations sur lesquelles il s'agit de parier avec des pièces dans le sac. Donc la description, vous la possédez. Je prends les éléments d'analyse de Guy Brousseau et l'ensemble des analyses que nous pouvons faire nous conduit à envisager le type d'intervention pour la seconde séance. Alors, vous voyez bien qu'ici, quand Brousseau parle de type d'intervention pour la seconde séance, au cœur du problème, il ne s'agit pas, dès à présent, on peut le voir, de mettre en place la situation et de laisser l'élève face à cette situation pour interagir. Brousseau explicite très clairement l'intervention dans la situation proposée à l'élève. Alors, ce pari va s'agir, enfin, dans cette situation, il va s'agir d'introduire une rupture dans les conceptions que Gaël se fait d'une situation didactique. Et en lui proposant une situation qui va exiger de lui des anticipations, des prévisions, des prises de responsabilité, c'est-à-dire un investissement de l'objet de la connaissance. Pour cela, sur le même sujet mathématique, donc on va reprendre un petit peu la situation de départ, nous allons lui proposer ce que nous appelons une situation d'action. C'est seulement s'il s'avérait que Gaël ne peut entrer dans ce type de rapport à la connaissance que nous chercherions d'autres voies. Donc la situation de Paris dont parle pour Brousseau, c'est la situation du sac. Et cette situation, petite remarque, il est nommé dans la suite de l'article le jeu de la devinette. Hein? Bon, le matériel est constitué de ronds, de triangles, de petites, de grandes tailles, et le jeu consiste par exemple à compter toutes les pièces rondes, il y en a 19, et à trouver combien il y a de pièces dans le sac qui ne contient maintenant que des triangles, sachant qu'en tout il y a 52 pièces. Donc, pour amener Gaël à bâtir un autre rapport à l'activité intellectuelle, l'intervenant institue le pari. Et avant de fournir sa réponse définitive, Gaël doit parier avec l'intervenant. Alors, s'il n'est pas sûr de lui, il peut vérifier d'une manière ou d'une autre sa proposition. Et ce n'est pas le pari, en fait, qui est l'enjeu de la situation, mais c'est la manière dont la vérification va se produire qui va constituer l'enjeu de la situation. Alors, cette situation, elle va se dérouler en montrant de multiples difficultés de Gaël, en particulier des difficultés de mémorisation. Hein? Alors, on peut envisager qu'elles sont liées peut-être ou sans doute à sa perception du nombre, à son appréhension de la numération et qui atteste, comment dire, d'un oubli de certaines manières de faire. Mais peu à peu, pari après pari, Gaël avance et il accepte d'utiliser l'addition comme moyen de vérification. Autrement dit, ici, il exprime, comme le dit Brousseau dans son texte initial, la condition, hein, quel est le nombre, qui a ajouté à tant, il est dans le respect de la condition, hein, dans l'écriture algébrique de cette situation-là. Vient la séance 3. Alors, c'est le jeu des devinettes, ah non, c'est ici, voilà. Excusez-moi, j'ai sauté une diapositive. La contribution du jeu des devinettes et le compte à rebours. Donc, la situation 2, avec le pari, montre que Gaël est capable d'entrer dans toutes ces phases de la dialectique de l'action. Alors, entendre par dialectique de l'action une proposition qui peut être modifiée par un retour pour pouvoir l'améliorer, la modifier ou la reconceptualiser. Où est-ce que j'en étais ? Voilà. De produire et d'éprouver des modèles implicites, donc ici en convoquant progressivement l'addition, enfin en arrivant finalement à utiliser le moyen d'addition a priori pour vérifier, il est capable donc de produire des modèles implicites, même si, comme Brousseau l'énonce, on va le voir par la suite, c'est avec une efficacité encore assez faible pour les problèmes notamment de mémorisation des différentes étapes ou alors de non-fixation de la, comment dire, de la technique qui permettrait de réaliser ça à coup sûr. Alors, il est probable qu'il accomplit naturellement cette activité, ce qui explique le développement normal qu'on observe chez lui. Donc, il cherche de façon presque naturelle, c'est une tendance naturelle, à trouver des solutions faciles dans l'interprétation des suggestions de l'adulte. Il faut donc étudier les moyens d'engager Gaël dans cette voie et de lui donner le goût et les moyens d'assurer son apprentissage. Mais il reste aussi beaucoup à faire pour lui permettre d'acquérir la maîtrise des situations de soustraction et leur donner du sens. Alors, une fois qu'on a constaté, on pourrait très facilement dire « ça y est, il est rentré dans la situation ». Il est sorti de sa réponse stéréotypée par rapport à ce qu'on attend de lui et il produit de sa propre initiative un certain nombre de réponses qui sont propices à un enseignement. C'est pourquoi j'ai complété les intitulés des situations « Continuation du jeu des devinettes »,« Le compte à rebours », »,« Contre la didactification possible ». Pourquoi je dis ça? Je prends un extrait de l'article et voilà ce que dit, ce que précise Brousseau. Ici, on pourrait enseigner à Gaël les éléments qui lui manquent. Faire un schéma, identifier dans une situation le schéma convenable, concrétiser de fait la soustraction par la répétition de manipulation. Les gens qui ont participé au TD hier, dans beaucoup de manuels, hein, une fois l'impression que les choses sont propices à être mises en place, eh bien, on va systématiser d'une certaine façon par la répétition de propositions très peu différentes. C'est-à-dire que on va prendre 22-11, et puis on va prendre 22-13, et puis on va prendre 23-11. On va faire ce type de travail et l'association d'un discours approprié. J'enlève, je retranche. Tout ça, ce sont des éléments, comment dire, des associations de discours qu'on a pu remarquer encore hein, dans les manuels que nous avons pu regarder ensemble hier. Eh bien non, Brousseau nous dit la chose suivante, nous cherchons au contraire à lui faire construire et apprendre une théorie en suivant un processus différent, historique celui-là. Alors, cette séance 3 va consister en quoi? Eh bien, de nouvelles occurrences, de nouvelles situations, de nouveaux paris, et puis il persiste chez Gaël. Vous voyez bien qu'on laisse, on pourrait dire, maturer la situation, hein, et on remarquera qu'il reste pour Gaël des difficultés persistantes relatives, par exemple, au passage à la dizaine. Et l'intervenant va instituer le jeu du compte à rebours. Il sort des pièces du sac qui en contient 56, et lorsqu'il dit top, Gaël doit dire combien il reste dans le sac. Alors, Gaël parvient peu à peu à gagner, et même lorsque l'intervenant enlève les pièces par dizaines, la séance se termine avec succès. Vient maintenant, alors, vous voyez bien qu'il y a dans cette présentation un début de commencement du questionnement de l'enchaînement des situations. La quatrième séance, le jeu des estimations, le jeu du menteur, le jeu des étiquettes. Alors, voilà ce qui est intéressant dans ce type d'enchaînement, Une méthode classique consisterait à exploiter la situation d'action à partir des redondances que Gaël, par exemple, aurait pu remarquer, qui ont été créées par les situations 2 et 3, c'est-à-dire pousser Gaël à prendre parti, à formuler des déclarations, à les affirmer, à les retirer dans une relation duelle avec l'adulte. L'intervenant tirant à chaque instant une morale, c'est-à-dire un jugement, des actions de Gaël en la lui faisant tirer. Par exemple, il répétait des situations de Paris en insistant « il faut être sûr ». « Es-tu certain ?» Affirmation un peu rapide de Brousseau, nous savons que cette méthode ne peut pas aboutir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que nous savons que cette méthode ne peut pas aboutir ? Alors, pour Brousseau, il faut comprendre que cette... j'imagine qu'il faut comprendre, mais en tout cas, c'est mon interprétation. Cette séance-là, le jeu des estimations, le jeu du menteur, le jeu des étiquettes, elle constitue le moment crucial dans lequel Gaël va basculer dans un nouveau rapport aux mathématiques. Ce nouveau rapport, alors, à maintes reprises dans nos débats, nous avons eu la question qu'est-ce que faire des mathématiques ? Qu'est-ce que faire des mathématiques ? Est-ce que faire des mathématiques devant les élèves permet d'apprendre des mathématiques ? Toutes ces questions qui sont un petit peu récurrentes ou implicites dans les échanges. C'est pas ma réponse, hein, mais c'est mon interprétation du travail des mathématiciens. Ce nouveau rapport, il consiste à changer le rapport à l'incertitude. Et ce rapport à l'incertitude, qui est au cœur du travail des mathématiques, il lui est toujours difficile d'affronter. Alors, ce rapport à l'incertitude, qu'on pourrait très... Vous comprenez, quand tout à l'heure j'ai indiqué contre la didactification possible, c'est en fait, ne pas s'autoriser à accompagner l'élève, à diriger l'étude de l'élève pour construire de la certitude. Si on systématise rapidement, on anticipe précocement sur une certitude sans avoir créé les conditions de s'affronter et d'aller au-delà de cette incertitude. Alors, les situations, quelles sont ces situations qui sont susceptibles de favoriser ou de provoquer un changement de rapport à l'incertitude grâce aux mathématiques. Alors, Brousseau continue, de mon point de vue, dans cette situation-là, à réfuter la didactification dans ce type de construction de rapport aux mathématiques. Et ce que l'on va voir dans la relation au menteur notamment, le jeu des étiquettes, c'est que petit à petit, les connaissances mathématiques implicites vont devoir être nécessairement convoquées dans la relation à l'adulte pour répondre à la situation. Prototypiquement, de mon point de vue, l'instant clé de changement de rapport aux mathématiques dans la situation d'apprentissage des mathématiques, c'est le jeu du menteur. Si vous regardez attentivement la relation dans cette situation du jeu du menteur, ou comment l'élève montre qu'il a construit un élément de savoir lui permettant à coup sûr de mettre en évidence sa certitude par rapport à l'affirmation de l'intervenant, et vous verrez que c'est là que se joue, se construit de façon, comment dire, je dirais pas presque évidente, mais en action, ce nouveau rapport à l'incertitude grâce à l'usage de la connaissance mathématique. Alors, j'ai repris le cas de Gaël pour vous montrer comment la proposition théorique de Guy Brousseau me semble particulièrement féconde, et avec certains concepts qu'il a développés, pour penser, questionner, élaborer des situations ou des enchaînements de situations dans une, pour une démarche d'investigation. Alors, cette notion de contrat didactique qui a tellement diffusé ici et là que on ne sait plus trop finalement à quoi elle correspond. Ici, j'ai voulu montrer un petit peu son épistémologie. Cette notion de contrat didactique intervient ici et son intérêt est déterminant avec la théorie des situations pour désigner l'implication commune des élèves et du professeur dans une situation didactique. Cette situation didactique, comme le montre, comme on peut le voir dans le cas de Gaël, lorsqu'elle est prise dans une situation, dans un contrat didactique, lorsqu'elle est posée pour apprendre, une situation non didactique devient une situation adidactique. Et on nomme alors, dans la théorie des situations didactiques, l'ensemble des situations adidactiques qui sont nécessaires à la production d'un ensemble de savoirs enseignés. Au cœur de la relation didactique se trouve donc le contrat didactique, et cette production d'un ensemble de savoirs que le professeur doit en principe organisé, doit, selon la théorie des situations didactiques, intervenir à l'aune du contrat didactique. Alors, cette nuance forte entre une situation prise dans un contrat didactique qui devient adidactique lorsqu'il y a un contrat, c'est-à-dire lorsqu'elle va reposer sur un système d'attente réciproque, d'attente relative au savoir, d'attente relative à la place du professeur dans la situation, ce que le professeur amène, ce que l'élève doit prendre à sa charge, donc assumé par lui-même, deviendra alors une situation adidactique, et l'ensemble des situations didactiques adidactiques qui sont nécessaires à la production de la connaissance vont devenir des situations didactiques. Voilà ce qui vous permettrait, à mon sens, d'envisager la théorie de la situation didactique dans ses écrits pour pouvoir comprendre un petit peu l'enjeu théorique, mais pas que théorique, l'enjeu dans l'élaboration des situations didactiques. Une situation didactique, pour être situation didactique, doit correspondre à une classe de situations dans lesquelles vont être convoqués le savoir. Alors, je vais reprendre un petit peu cette notion de situation didactique, de faire parler. Alors ça, c'est un schéma très, très classique. Je l'ai pris dans sa forme simplifiée. Vous pourrez trouver chez Brousseau des emboîtements, des choses un petit peu complexes. Ce que je voudrais... En voyant ce schéma, je voudrais indiquer de façon incidente que la théorie des situations didactiques, avec la notion de contrat didactique, de milieu associé au contrat didactique, s'intéresse donc aux relations entre un professeur et des élèves au sujet d'une situation. Et l'ensemble des relations, prof, élève, milieu, prof, élève, milieu, indique l'appréhension systémique de la relation, de la situation didactique. Et donc, dans le contrat didactique, l'ensemble des informations, actions, rétroactions dans le milieu sont, si on regarde le cas de Gaël, régis par le contrat didactique. Le milieu, les actions avec le milieu, ce que l'on peut regarder dans le cas de Gaël, c'est que, quoi qu'il arrive, les élèves, et notamment on le voit avec Gaël, l'élève doit porter une part importante de l'intention d'enseigner. Et quand je parle d'une part importante de l'intention d'enseigner, c'est qu'ils doivent, sous la direction du professeur, réaliser un projet personnel, implicite. Ce projet personnel implicite, dès lors qu'on accepte de s'affronter, comme le montre le cas de Gaël, c'est quoi ? Eh ben, c'est de s'enseigner aussi à soi-même des connaissances dont, a priori, il constate qu'ils en sont ignorants. Et pourquoi ? Eh bien, parce que la situation d'enseignement leur en fait éprouver le besoin. S'il n'y a pas dans la situation l'enseignement qui fait éprouver le besoin de porter ce projet-là, eh bien, le contrat didactique enclenchera nécessairement, comme le montre le cas de Gaël, un recours à des rituels, à des habitudes d'action qui peuvent être culturelles, par exemple. Quand l'adulte parle, l'enfant se tait. Pour bien communiquer dans un groupe, il doit y avoir le silence. Un certain nombre de rituels d'action pour pouvoir s'entendre et s'écouter, hein, bien sûr. Vous le savez tous. C'est ça qui est au cœur du problème. C'est ça qui est au cœur de la démarche d'investigation. Me semblerait, si je le regarde du point de vue de la théorie des situations, porté au centre du débat. La situation d'enseignement comme mise à l'épreuve, effective, de s'enseigner à soi-même. Ce que montre, en fait, je prends beaucoup de précautions en posant ça. C'est l'enquête que je produis sur le texte de Brousseau. Donc, ce que montre l'enquête de Brousseau, donc, que pour Gaël, ce ne sont pas des difficultés liées au schéma opératoire de l'inclusion. Hein. Alors, autrement dit, on pourrait dire ça, que ce ne sont pas des causes endogènes. L'échec ne relève pas de difficultés particulières à la maîtrise de ces schèmes. Brousseau fait l'hypothèse que l'incompréhension de Gaël vient avant tout de sa manière d'être avec autrui, ou plus précisément d'être avec autrui en situation didactique. Gaël, dans son rapport habituel dans la relation didactique, a construit un rapport de défiance qui se traduit par un non-engagement. Le non-engagement dans la situation, on pourrait le dire en vocabulaire broussaldien, qu'il n'assume pas la dévolution. Et il n'assume pas la dévolution par le fait qu'il n'assume pas le travail effectif dans le milieu. Alors, cette notion de contrat, comme vous le voyez, contrat, dévolution, travail effectif, je vais le décliner, enfin je vais le préciser d'une certaine façon. Qui dit relation à l'autre dans une situation didactique convoque avec quoi le travail va être conduit. L'ensemble des ressources disponibles pour conduire ce travail se trouve dans la situation. Donc ce avec quoi l'élève va travailler, les objets. Alors les objets, là on a des objets matériels, hein, les cubes, les blocs, etc. Mais ça peut être des objets, comment dire, comme dirait Chevalard, des ostensifs, c'est-à-dire des écritures symboliques. Hein. L'élève ne s'engage pas dans ce milieu-là parce qu'il refuse, à l'aune de ses rituels d'action dans la situation didactique. Mais qui dit travail effectif dit quoi ? Dit un rapport fonctionnel à la connaissance. C'est-à-dire que la connaissance permettant d'agir dans le milieu, elle a ici un rôle fonctionnel nécessaire. Et on a, en fait, vous voyez bien une fractale qui se joue ici, c'est-à-dire l'engagement, au centre de l'engagement, le travail effectif dans une relation à un système de représentation, des objets matériels, symboliques, mais aussi une dimension forte. C'est ce que je fais a une fonction et une nécessité dans la situation. Mais ça, c'est à l'état pur, hein. On comprend bien que dans les séances ordinaires, ça n'existe jamais. C'est-à-dire qu'il y a toujours un état dilué de cet engagement et cette nécessité toujours maîtrisée par la connaissance. L'action problématique est le savoir et la démarche d'investigation. Ce que montre, je crois, de façon assez remarquable, que j'ai tenté de mettre en évidence dans mon exposé, qu'est-ce que c'est que agir sur le didactique par le didactique, une fois exclues les causes externes qui peuvent venir perturber et qu'on est sûr de cette. C'est chercher l'échec de Gaël, alors pas dans la personne, ni même dans la situation. On peut faire confiance à l'ingénieur didacticien qui était Brousseau pour proposer une situation avec une richesse mathématique suffisamment importante pour engager l'élève dans cette relation, mais dans le rapport entre l'individu et la situation. D'ailleurs, toute la première séance du cas de Gaël montre en fait comment Gaël est porté. Alors bon, je vais convoquer, un habitus didactique, un rituel didactique qui s'active dans le contrat didactique classique. Alors j'appelle contrat didactique classique un type de relation à la situation dans lesquelles il y a une course à la solution avec une validation magistrale portée par le professeur. Et avec ce qu'on a appelé avec Gérard Sansévi dans un texte il n'y a pas longtemps, un apprentissage interstitiel. Ça nous plaît d'inventer des formules comme ça quelquefois, ça fait du bien, quoi. Ça veut dire quoi ? C'est que l'apprentissage pour beaucoup d'élèves ne se fait pas dans la prise de décision suivie de l'observation des effets de cette décision dans la situation. C'est ailleurs que l'apprentissage se fait. Autrement dit, on ne sollicite pas ce que nous entendons par là, c'est que souvent, cette prise de décision suivie de l'observation des effets de cette décision n'est pas réellement prise en compte dans le contrat didactique classique. Il est laissé comme ça à l'issue de cette validation magistrale et porté par la course à la solution. Cette temporalité de la course à la solution est flagrant. Mes chers collègues, regardez les manuels, regardez à quelle vitesse on traite le théorème de Thalès. C'est une course à la validation. C'est tellement évident qu'il suffit de dire, mais regarde, tu le vois bien. Par rapport à l'exemple qui a été donné hier sur les cordes et la plage, il y a un et GeoGebra en première S, il y a quelque chose qui s'appelle à la fin du chapitre d'ailleurs, souvent, un truc qui s'appelle optimisation. Et on traite cette question-là par la dérivation. Hein. Et puis on dit, on a un triangle, comme par hasard il est rectangle, et puis on inscrit un carré à l'intérieur de ce rectangle. Et puis on pose la question, quelle est la surface, quelle est la longueur du côté du carré qui optimise la surface par rapport à la surface totale portée par le triangle. Bon. Et alors, il y a une solution qui est promue par toutes les... Alors, vous regardez dans le bouquin, en exercice, c'est pas traité, dans les deux bouquins que j'ai consultés. Et puis, vous allez regarder dans des bouquins qui s'appellent méthode, qui s'appellent exercice pour la première S, etc. Et puis, j'ai remarqué une phrase dans laquelle il suffit d'appliquer le théorème de Thalès. Et on va appliquer non pas le théorème de Thalès, mais une propriété de la proportionnalité, comme si les élèves avaient éprouvé le fait qu'en étudiant le théorème de Thalès en quatrième, c'était un problème de proportionnalité qu'ils pouvaient aussi travailler de cette façon-là. Alors, dans cette course effrénée à la validation magistrale, on voit, enfin, de mon point de vue, cette notion dans la démarche d'investigation, dans l'agir sur le didactique, par le didactique, et sur quels sont les objets avec lesquels les élèves vont s'engager pour entretenir une relation pertinente et idoine à l'objet de savoir, mais aussi à sa relation avec le professeur, qui est le garant d'une relation correcte à cet objet de savoir, et qui sera validé par un DS, un baccalauréat ou des choses de ce type-là. Alors, je ne vais pas développer un certain nombre de particularités de la théorie des situations, parce que je pense qu'elle mériterait qu'on y travaille beaucoup sur situation d'action, de formulation, de validation et d'institutionnalisation qui sont classiquement utilisés, rabâchés, avec quelquefois des contresens. Je voudrais vous faire remarquer que à chaque fois que Guy Brousseau présente ces choses-là, elle se fait toujours sous contrôle d'un cas, d'un exemple. Hein. Il n'y a pas de généralité dans ces exposés. Mais je voudrais avoir une distanciation à cette théorie pour faire une proposition avec vous sur, à l'aune de la théorie des situations, c'est-à-dire des situations adidactiques, comme j'ai pu les définir, pour la production collective du savoir. Alors, ce que montre... je vais aller plutôt là. De mon point de vue, le cas de Gaël montre qu'une connaissance acquise dans l'action... Alors, quand je dis acquise dans l'action, c'est relative à des objets de savoir, enfin à des objets donc au milieu dans lequel il y aurait un engagement effectif hein, de l'élève, donc une dévolution. Hein. Et donc ça peut être transformé en savoir mathématique objectif, c'est-à-dire reconnaissable à l'extérieur de la classe. Ça, c'est ce qu'a montré la théorie des situations. Un des grands enjeux, un des grands pas de la théorie des situations, de mon point de vue, c'est que on peut transformer en savoir mathématique une connaissance acquise dans l'action. Ce qui est assez... c'est une proposition très générale. Hein. C'est pas relatif à l'école primaire, c'est pas relatif aux mathématiques de l'enseignement secondaire. C'est un principe fondateur, enfin, c'est un principe qui est au cœur, dans l'action. Bon. Et les travaux de Guy Brousseau, d'autre part, montrent que pour réaliser cette dynamique-là, et je pense que c'est intéressant de la garder en mémoire sur la dynamique de la démarche d'investigation, une situation didactique, donc moyennant la distinction que j'ai faite tout à l'heure, doit satisfaire à des conditions. Et je ne vais pas les mettre en termes de situation d'action, formulation, etc. Mais je reviens à la diapositive, j'avais un petit peu anticipé. Alors, quelles sont ces conditions ? C'est une proposition, hein. Je les modifie au fur et à mesure que je reviens sur ce travail-là. Alors, la première condition, c'est que la situation doit donner aux élèves le moyen d'évaluer l'échec ou la réussite de l'action demandée. Si on regarde la situation numéro 3 de Brousseau, c'est clairement ça. On ne didactifie pas précocement, mais la situation en elle-même permet d'évaluer la réussite ou l'échec de l'action demandée. Mais alors l'action, elle n'appartient aux élèves que si le professeur n'est pas le garant du jugement sur sa réussite ou son échec, comme je l'ai montré tout à l'heure. Et donc, les conditions de l'action demandées aux élèves, elles doivent comporter un moyen sûr. Cette relation à l'incertitude et à la certitude, bon, je me mouille, hein, il y a des grands mathématiciens, ou il y a eu des grands mathématiciens dans la docte assemblée. Ce rapport à la certitude dans le travail des mathématiques est pour moi, modestement, essentiel dans la relation au monde. D'ailleurs, on a parlé de statistiques, mais est-ce que c'est pas un moyen aussi de politique, enfin un moyen originellement, oui, politique de gouverner. Alors on convoque un certain nombre de. Bon, bref. Donc, les conditions de l'action demandées aux élèves doivent donc comporter un moyen sûr d'en évaluer le succès. Mais attention, cette condition, je la traite en termes de conditions, normale dans une situation non didactique, je me gare à un endroit, eh bien, vous avez très vite la condition de la réussite dans une situation non didactique. Dès lors qu'elle est prise dans un contrat didactique, elle est rarement satisfaite par une situation didactique ordinaire. Et le travail d'ingénierie, comme on a pu l'évoquer à différentes reprises, je vous assure, hein, c'est très rare, même dans les séries américaines, hein, de demander à quelle distance du bord de mer on doit poser, parce que la réglementation de 1000 mètres carrés, je vous assure, hein, même dans les séries américaines, avec des expertises multiples et variées, cette question est rarement portée. Hein. Oui. Donc, ce travail d'ingénierie. Donc, il y a ici, dans ce travail le travail d'ingénierie permet cette distanciation, ce travail sur la couleur d'une situation qui permettrait l'entrée dans le didactique, mais qui n'est pas tout à fait ordinaire, malgré tout. Hein. La deuxième condition. Les élèves peuvent recommencer l'action en cas d'échec. Vous avez vu que dans le cas de Gaël, c'était tout à fait décisif. C'est un rapport à l'évaluation et à l'observation des élèves dans ce système, dans ce dispositif, qui devient, je dirais, presque monnaie courante. Parce que pourquoi ? Parce que recommencer l'action, alors toujours dès lors que l'on est engagé, etc., hein, que la dévolution, le processus de dévolution est à l'œuvre, c'est d'abord vérifier, tout d'abord, que l'échec n'est pas l'effet d'un malheureux hasard, mais c'est plutôt un support pour explorer des évolutions possibles de sa stratégie, de sa proposition, qui est manifestement inefficace. Et ça, on a un problème ici, là, c'est le rapport au temps. Alors, vous avez vu Gaël, enfin, vous avez lu Gaël. Il ne s'agit pas de recommencer une ou deux fois seulement, quoi. Alors, peut-être que des dispositifs technologiques seraient intéressants, parce qu'ils peuvent très rapidement et simplement fournir. Mais vous avez vu aussi pour nos collègues primaires qu'avec des doigts et un dé, ça va prendre très longtemps. Enfin, avec les doigts, avec deux mains et tous ces doigts, ça va prendre assez longtemps. Et ces conditions sont draconiennes. Si elles sont pas mais si elles sont réalisées, vous voyez que dans le cas de Gaël, qui est un cas particulier, hein, c'est pas dans une classe, c'est pas un professeur ordinaire, c'est un professeur qui est un mathématicien, qui travaille depuis longtemps sur des ingénieries didactiques, qui s'assure que l'élève n'a pas un déficit pathologique, on pourrait dire presque. Hein, mais on montre que, enfin, le cas de Gaël montre que c'est efficace. Gaël construit la connaissance. Gaël suit le chemin. Et surtout, il suit selon les moyens que le professeur a mis à disposition pour le réaliser. Hein. C'est pas la situation qui est livrée comme ça. Et s'il n'y a pas de contrat didactique, c'est-à-dire... oui, je suis à 1h. 1h05. Donc dans 10 minutes, j'aurai fini. C'est efficace. Mais il y a un rapport là. Profit, temps. Profit, temps. C'est... Alors, entre la course que j'évoquais tout à l'heure et cette temporalité un petit peu particulière, le rôle du professeur et des autres élèves, des pairs, est tout à fait important à regarder, à observer. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait quand il y a deux ou trois élèves qui sont en train de faire, il y a que le reste de la classe, et ça y est, il a quoi. Bon. Autrement dit, il y a un temps de diffusion de l'efficacité qu'il va falloir apprendre à maîtriser. Ce sont des gestes professionnels qu'on est en train d'observer dans le primaire. Mais c'est partout qu'il faut regarder ça. Et je vous assure, en recherche, on n'en sait pas grand-chose de ça. Mais attention, quand on est dans ce deuxième principe, la connaissance a un statut bien particulier. C'est une manière de faire. Au mieux, comme l'a expliqué Annie hier, on pourrait dire que c'est une technique naturalisée. Troisième principe. Les élèves ont à formuler leur stratégie. Menteur. Enfin, je fais allusion au cas de Gaël, bien sûr. Hein. Et cette formulation, elle ne peut pas être laissée libre à l'élève. Elle doit être organisée comme un type d'action à part entière. Et comme c'est un type d'action à part entière, de façon récursive, elle doit répondre aux deux principes précédents. Validation, échec, par exemple. La validation opératoire d'une formulation, bon, c'est typiquement ce qu'on fait quand on fait des messages, quand on écrit des messages. Alors, en mathématiques, je voudrais indiquer ici, par rapport au travail d'ingénierie qu'on produit, la validation opératoire d'une formulation, le statut de l'écrit est essentiel, mais le statut de l'oral n'est pas à négliger. Mais le travail dans les représentations, dans l'écrit mathématique, est très... ça permet de juger de la réussite de la formulation. C'est pas une formulation orale. Vous voyez, c'est pas une énoncé, c'est pas un énoncé, un simple énoncé. Et donc, à ce stade-là, si je fais une tentative sous le contrôle de Annie, Yves et Robert, la connaissance ici est là plutôt un discours sur la technique. Donc pour nos collègues, on pourra dire que ça a une dimension technologique. Et alors, ce que l'on voudrait voir apparaître, en tout cas, si on extrapole le cas de Gaël à différents élèves fonctionnant selon ces principes-là, alors qu'est-ce que c'est qu'une classe de mathématiques ou qu'est-ce que c'est que faire des mathématiques en classe ? Eh bien, c'est une classe dans laquelle on a un fonctionnement d'une société scientifique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une société scientifique ? Eh bien, c'est une société qui fonctionnera sous les trois principes que je viens d'énoncer. Et en fait, la théorie des situations didactiques, c'est une théorie sociale de la formation scolaire des connaissances et des savoirs. Donc la dimension sociale dans ce travail-là, qui est, si je dis ça, c'est parce que on la voit pas apparaître dans le cas de Gaël. Hein? Mais bon, on ne pouvait pas prendre plusieurs textes pour travailler cette question-là. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ? Eh ben, on ne peut pas, de mon point de vue, envisager... Alors, théorie, comme ça a été dit plusieurs fois, une théorie, c'est un modèle qui permet de questionner, c'est-à-dire qui permet d'avoir un rapport distancié à l'immédiatement perceptif ou préhensible. Et donc ça va poser des questions. Alors quel type de questions ça pose ? Donc si on prolonge cette perspective dans une perspective anthropologique, en fait, qu'est-ce qui se joue derrière ? C'est que on construit des interactions qui produisent des manières de faire et de penser socialement, de penser socialement de façon stable. Alors, et ces manières de penser, de faire, ça peut être des savoirs, mais ça peut être des machines à calculer, des systèmes graphiques, des écritures algébriques, autrement dit des dispositifs techniques. Et quand on dit théorie des situations didactiques, des supposés ou même théorie anthropologique, c'est qu'un humain est ainsi capable d'apprendre à partir de sa propre expérience, mais aussi d'apprendre en utilisant les résultats de l'apprentissage d'un groupe humain dont il partage au moins une part de l'expérience commune. Et c'est le sens de d'œuvre au sens de... Enfin, alors je sais bien que... Ne te lève pas, Robert, au sens de... je pense que c'est une des raisons profondes sur l'étude des œuvres comme une réponse sociale à une question contenue dans l'œuvre. Voilà ce que j'avais à vous dire sur théorie des situations didactiques et démarche d'investigation. Merci.